Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Artree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Comment dessiner l'art 3D et des illusions d'optique » signé Edouard Léo, est un guide pratique en français consacré au dessin tridimensionnel sur papier, proposé en édition Kindle et comptant 106 pages selon les informations disponibles. Il vise un apprentissage progressif plutôt qu'une étude théorique de la perception visuelle. Le livre annonce des consignes étape par étape, accompagnées de photographies et de commentaires, pour réaliser des lettres en volume, des images 3D, des effets de fragmentation et des trous dessinés. Son sujet central est la fabrication d'une apparence de profondeur sur une surface plane, par le tracé, la perspective, les ombres et la disposition des formes. La promesse pédagogique est accessible, il ne suppose pas une formation artistique préalable et cherche à rendre reproductibles des effets souvent perçus comme complexes. Faute de documentation détaillée sur la totalité du contenu, cette analyse se limite aux axes explicitement présentés progression guidée, construction de volume, illusion de rupture et effet de cavité. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une méthode séquentielle pour rendre le dessin 3D abordable. Le principe le plus clairement annoncé par le livre est un apprentissage étape par étape. Dans le dessin d'illusion, cette organisation est essentielle, car le résultat dépend rarement d'un geste isolé. Une image convaincante résulte plutôt d'une succession contrôlée, poser une forme de base, fixer sa direction, ajouter les contours qui suggèrent la profondeur, puis renforcer les zones utiles avec des valeurs ou des ombres. Une méthode séquentielle réduit le risque de vouloir produire immédiatement un effet spectaculaire sans maîtriser sa structure. Elle permet aussi de repérer plus facilement une erreur. Un volume paraît incohérent lorsque ses arêtes ne suivent pas une même orientation, lorsqu'une ombre contredit la source lumineuse ou lorsqu'une forme arrière est placée trop visiblement devant une autre. Le positionnement du livre semble donc privilégier la reproductibilité. Les photographies et commentaires annoncés servent vraisemblablement de repères visuels durant chaque phase, ce qui est particulièrement pertinent pour une activité où la comparaison entre le modèle et le tracé compte beaucoup. Cette approche convient aux débutants, mais elle a aussi une valeur méthodique plus générale. Elle apprend à décomposer une image complexe en décisions graphiques simples. Le lecteur peut ainsi refaire un exercice, corriger une étape, puis observer précisément comment une modification du contour ou de la valeur transforme la sensation de relief. Deuxièmement, les alphabets en volume comme exercice de construction spatiale. Les alphabets 3D constituent un contenu explicitement mentionné et un bon point d'entrée vers la représentation du volume. Une lettre possède déjà une silhouette identifiable sur une feuille. Pour la faire paraître épaisse, il faut prolonger certaines parties de sa forme selon une direction cohérente et relier les contours correspondants. Ce procédé introduit concrètement la logique des faces visibles. Une face frontale conserve la lecture de la lettre, tandis que les faces latérales ou inférieures suggèrent son épaisseur. Le défi ne consiste donc pas seulement à décorer une typographie, il demande de maintenir la même orientation de profondeur pour toutes les parties de la lettre, y compris les angles, les courbes et les espaces intérieurs. Une incohérence de direction affaiblit immédiatement l'illusion. Les lettres sont pédagogiquement utiles parce qu'elles associent une règle géométrique à un motif familier. Le lecteur peut comparer rapidement son résultat à une forme connue et comprendre ce qui rend le volume lisible. Le recours aux ombres peut ensuite séparer la face principale des faces reculées et stabiliser la sensation de matière. Dans le cadre annoncé par Edouard Léo, les alphabets en relief semblent représenter moins un objectif calligraphique qu'un entraînement aux bases du dessin tridimensionnel contour, prolongement, superposition et lumière. Ces acquis peuvent ensuite être transférés vers des objets, des panneaux ou des formes plus libres. Troisièmement, créer des images qui semblent sortir de la feuille, le livre se présente comme un manuel de dessin en trois dimensions. Expression qui désigne ici des images conçues pour donner une impression de profondeur ou de saillie sur une surface plane. Le mécanisme visuel repose sur des indices que le regard interprète spontanément, recouvrement entre les formes, diminution apparente de certaines parties, lignes orientées vers une profondeur, contraste entre les plans et ombres portées. Un dessin peut ainsi sembler avancer vers le lecteur si ses bords, ses faces et son ombrage indiquent une position distincte du fond. Cette catégorie d'exercice exige une attention particulière au point de vue. Un effet optique peut être très convaincant depuis un angle déterminé, mais devenir moins lisible si la feuille est observée autrement ou si la photographie est prise de biais. La progression annoncée est donc importante, elle permet de comprendre que l'illusion ne provient pas seulement du réalisme des détails, mais de relations spatiales cohérentes. Un contour net ne suffit pas. Il faut que les éléments situés au premier plan masquent logiquement ceux de l'arrière-plan et que les ombres correspondent à la forme supposée. Les images 3D décrites par le livre ont également un intérêt pratique. Elles entraînent la capacité à planifier un dessin avant de le remplir. le lecteur apprend à distinguer la silhouette générale, les plans secondaires et les accents de contraste qui rendent le relief immédiatement perceptible. Quatrièmement, fragmentation visuelle et destruction apparente des formes. La destruction fragmentaire figure parmi les sujets annoncés. Cet effet consiste à faire paraître une forme brisée, dissoute ou séparée en morceaux, tout en conservant assez d'informations visuelles pour que le regard comprenne l'objet initial. Il ne suffit pas de tracer des fissures au hasard. Pour suggérer une fragmentation crédible, les morceaux doivent garder une relation avec la forme d'origine et leurs bords doivent signaler une séparation-décalage, absence de matière, changement de valeur ou chevauchement. Le dessin peut alors exploiter un contraste entre une silhouette globalement stable et des zones où cette continuité est interrompue. Cet axe est distinct du simple dessin de volume. Là où le volume établit une présence solide, la fragmentation met en scène la rupture de cette solidité et demande de gérer plusieurs petites formes comme un ensemble cohérent. Les ombres sont particulièrement importantes car elles peuvent indiquer que certains fragments sont soulevés, reculés ou détachés du plan principal. Les exemples pas à pas annoncés sont adaptés à ce type de sujet. Le lecteur doit voir dans quel ordre construire la forme entière, identifier les zones de rupture, puis ajouter les fragments et les effets de profondeur. Cette pratique développe une compréhension utile de la continuité visuelle. Elle montre que le cerveau accepte une forme incomplète lorsque les contours restants, les directions et les valeurs fournissent des indices suffisants. Le fait repose ainsi sur une organisation contrôlée plutôt que sur une accumulation de détails. En dernier lieu, dessiner des trous et des cavités par les ombres et les contours. Les trous constituent un autre thème explicitement associé au livre. Une cavité dessinée est une illusion particulièrement instructive, car elle inverse la lecture habituelle du relief. Au lieu de faire avancer une forme, elle donne l'impression que la surface s'enfonce. Pour y parvenir, le dessin doit distinguer nettement le bord de l'ouverture, les parois supposées et la zone la plus profonde. La répartition des valeurs est décisive. Une zone sombre placée de manière arbitraire peut sembler être une tache. Une zone sombre articulée à un rebord et à des parois peut être lue comme un espace intérieur. Le contraste entre la surface éclairée et l'intérieur plus sombre contribue donc à installer la profondeur. La perspective intervient aussi selon la position imaginée de la cavité. Son ouverture peut paraître circulaire, ovale ou anguleuse, tandis que les côtés doivent converger ou se raccourcir de façon compatible avec le point de vue. Ce type d'exercice révèle le rôle du fond dans une illusion optique. La feuille ne fonctionne plus comme un simple support blanc, mais comme une surface fictive que le dessin semble perforer. Le traitement d'un-trou exige par conséquent une grande précision dans les limites entre surface, rebord et obscurité. Dans un manuel destiné aux non-spécialistes, cet exercice a une valeur formative forte. Il relie le tracé géométrique, la gestion des ombres et la perception immédiatée de l'espace. En conclusion, comment dessiner l'art 3D et des illusions d'optique s'adresse avant tout aux personnes qui souhaitent apprendre à produire des effets de profondeur visible avec des moyens simples de dessin. Il peut convenir aux débutants, aux adolescents, aux amateurs de croquis et aux personnes qui cherchent des exercices visuels structurés. Sans entrer dans un enseignement académique complet de la perspective, son bénéfice pratique réside dans la décomposition annoncée des réalisations en étapes, soutenue par des photographies et des commentaires. Cette formule aide le lecteur à comprendre non seulement quoi tracer, mais aussi dans quel ordre construire une image pour préserver la cohérence du volume. L'esthème annoncé, lettres en relief, images 3D, fragmentation et trous, offre une variété réelle de problèmes graphiques, faire saillir, faire reculer, briser une continuité ou créer une cavité. Par rapport au recueil qui se limite à montrer des dessins finis, le livre semble se distinguer par son orientation explicitement procédurale et par le choix de faits populaires, directement reproductibles au crayon. Il ne doit pas être envisagé, au vu des informations disponibles, comme un traité approfondi sur les sciences de la vision ou comme une formation exhaustive aux techniques artistiques. Sa place est celle d'un guide d'exercices ciblés. Pour un lecteur régulier, il peut renforcer l'observation des contours, des ombres, des superpositions et de la perspective, soit les mécanismes qui permettent à une feuille plate de suggérer un espace construit. Si vous souhaitez soutenir Edward Léo, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.